Bienvenue dans Divers Vitrés, la nouvelle émission réalisée par Jeanne, Ada, Yuna, Sacha, Ethan et Louis, avec l'aide de Jérémy, Romain et Sado, en direct de la mairie de Vitré.
Tout d'abord, direction Maison Rouge, à la rencontre de ses habitants. Vous en saurez plus sur ce quartier de Vitré et sur notre local jeune.
Après, nous irons à la rencontre de deux personnes âgées à la résidence de la Trémoille à Vitré. Jean-Marie et Suzanne nous donneront leur point de vue sur la jeunesse.
Enfin, nous irons visiter le majestueux château de Vitré. Ses touristes, son histoire et ses vieilles pierres.
On est ensemble sur Silla pour l'émission d'Hiver Vitré. C'est parti!
Ce mardi, nous sommes allés à la rencontre des habitants du quartier de Maison Rouge à Vitré.
Ce quartier multiculturel souffre d'une mauvaise réputation. C'est pour cette raison que nous avons voulu le vérifier par nous-mêmes.
Bonjour.
Yaorana.
Ça va, Dikab?
Shukar Sabay.
Sabah al-Khair.
Quelle réputation a votre quartier et quelle est votre vision par rapport à cette réputation?
L'histoire de Maison Rouge, ça date de longtemps. Les gens, ils disent toujours, ils se méfient, mais il faut vivre pour connaître.
Alors là, je peux pas vous dire. Je peux pas répondre à cette question-là. Je peux pas. C'est un quartier calme pour moi. Donc après, quelle réputation qu'il y a là, je peux pas vous le dire.
Oh, c'est un quartier bien, mais ça a resté la trace de l'ancienne histoire ou les choses comme ça. Mais après, on peut pas faire un sélectif pour les gens qui habitent là. Après, ça sera, on rentre dans discrimination, d'autres choses.
La réputation, maintenant, elle est meilleure. Mais fut un temps, la réputation, on était dans un quartier de voyous. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Parce qu'on n'est quand même pas des voyous. Ben, c'est ce que je dis aux gens, est-ce que j'ai une tête de voyous? On a le droit de vivre, nous, comme tout le monde ici, enfin, je pense.
Le reste de Vitré, ils l'ont perdu de Maison Quartier. Quand on dit on habite en Maison Rouge...
Vous pensez que le quartier, il a quelle réputation?
Mauvaise, je pense. Ah ouais.
Ouais, une mauvaise réputation.
Je reste toujours, pour soi dit, c'est un bon quartier et j'aimerais bien que plus d'amélioration, plus d'animation, comme ça, c'est ouvert vis-à-vis les autres quartiers, vis-à-vis la ville.
Est-ce que pour vous, c'est vrai ou pas la réputation que peut avoir le quartier des Maisons Rouges?
Ben, c'est plutôt mauvais parce que c'est complètement faux.
Vous vous sentez comment ici?
Bon, c'est à peu près calme, c'est bien, on a de l'herbe, mais voilà quoi.
Les avantages, c'est le bus. Hein. Il y a beaucoup de bus, donc là-dessus, on peut aller se promener dans le centre ou faire les courses avec le bus. Donc voilà. Après, les inconvénients, c'est beaucoup de bruit le soir hein, ou la nuit. Donc, au manque de respect des gens.
Bah, tout le monde se parle, c'est bien quoi. Bonne entente, mais faut pas se chercher quoi.
Oh bah bien, parce que nous avons notre club de bateau juste à côté, il n'y a pas d'histoire, on est très bien.
Bon, pour moi ça va, la seule chose que j'ai remarqué un petit peu pour le moment, surtout cette vacance-là, il y a un petit peu des petits désordres, mais pour moi c'est pas trop désordre, c'est les enfants qui amusent. Pour moi ça va jusqu'à présent.
On a été longtemps délaissé ici. Bon, depuis qu'il y a la maison de quartier, qu'il y a le local jeune, c'est mieux. Mais la maison de quartier, c'est strictement rien. Il n'y a personne.
C'est un quartier vraiment côté esthétique, côté beauté, il est bien, il est chouette.
Je trouve que c'est tranquille, c'est l'avantage, moi je trouve. Hein. Voilà, c'est tout.
Et les inconvénients?
Ben, pour moi, ça va. Je suis dedans depuis en 2012. Pour moi, ça va. Mais la seule chose, surtout sur Place Rouge, il manque une toilette. C'est très important parce que des fois, il y a des enfants qui jouent au lieu de monter, aller chez eux, partout ailleurs, parce qu'il y en a à Maison Rouge, il y en a à Gonidec. S'il y a une sanitaire, c'était mieux.
Ne serait-ce que déjà l'entretien des parkings, ça fait X années qu'on demande ça. Et pour l'instant, Nettoir n'envisage pas de refaire les parkings. Puis l'éclairage, ça fait chauvin d'année qu'on n'a plus d'éclairage l'hiver. Le soir, on paraît-il que ça va se faire cette année. Bon, enfin bon.
Ouais, ça manque d'animation pour les jeunes. Il manque beaucoup de jeux, surtout pour le foot, quoi. Le terrain de foot, il a besoin d'être plus aménagé que ça.
Pour les enfants, hein, il manque, c'est l'animation. C'est ça qui manque pour les enfants.
comme j'ai une petite fille, elle est obligée de rester dans le... dans l'appartement, au lieu de descendre en bas, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses, quoi. C'est que le sable qui est là, avec la petite maisonnette, c'est tout, quoi. Et il n'y a pas beaucoup d'animation, quoi.
Comme vous venez de l'entendre, les habitants nous ont beaucoup parlé du manque d'animation pour les enfants en bas âge.
Malgré tout, le local jeune qui est situé dans le quartier Maison Rouge propose de nombreuses activités pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Pour le découvrir, nous avons interviewé Anaïs et Arthur, les animateurs. Ils nous racontent l'origine de cet espace jeune.
Il y a 10 ans, il a été créé par les jeunes qui souhaitaient avoir un lieu pour se retrouver, échanger, tout simplement s'amuser. Voilà. Il y a des consoles de jeux, il y a un billard, il y a des sorties qui sont prévues pendant toutes les vacances. Tout ce qui est possible, des domaines plus artistiques, des domaines sportifs.
En fonction de l'âge à peu près des jeunes qui viennent au local, aussi des possibilités financières et aussi des envies des jeunes et de ce que nous aussi on est capable de mener. Les points forts, c'est la bonne humeur, les jeunes qui viennent toujours plein de bonne humeur. Après, peut-être le point négatif, c'est un peu petit et ça manque un peu d'équipement, mais...
La taille. Bonne question. Pouvoir plus, ouais, avoir plus de place, plus de matériel, avoir de plus en plus de monde, quoi.
Est-ce que pour vous, le local, il est assez connu ou pas ?
Pas assez encore, non. Non, va falloir que ça s'éparpille un peu plus, il va falloir qu'on fasse un peu plus de publicité, de pub. Ouais.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que le local soit situé à côté des quartiers Maison Rouge ?
C'est une très bonne chose que ce soit à côté des quartiers Maison Rouge, parce que c'est des quartiers résidentiels, donc c'est chouette qu'il puisse aussi y avoir des lieux de rencontre dans les quartiers qui peuvent être un peu plus éloignés du centre-ville, où c'est là où normalement il y a plus de choses qui se passent.
Les animateurs nous ont parlé de quelques détails à améliorer, mais Anaïs reste positive sur son travail au local.
Déjà les collègues, au top, hein, les collègues, ça c'est super motivant. Tous les jeunes aussi, ça, c'est toujours de bonne humeur, ça donne toujours envie de venir au boulot. Donc c'est super chouette. C'est un public qui est super intéressant, ils sont encore justement jeunes, du coup il y a plein de choses à découvrir. Et à côté de ça, ils sont aussi assez matures pour pouvoir proposer aussi des choses, eux, qu'on peut mettre en place. Et puis l'animation, c'est un bel outil pour la suite, même pour les jeunes. Je trouve que ça a une vraie plus-value après pour le devenir des futurs adultes.
Eh oui, les futurs adultes, c'est nous.
Voilà, maintenant vous savez tout sur notre local jeune qui est situé dans le quartier Maison Rouge. Nous sommes allés interroger les habitants. Merci aux animateurs d'avoir répondu à nos questions et merci aux habitants de Maison Rouge.
La chanson qui arrive maintenant dans l'émission D'hiver vitré fait le lien avec notre prochain sujet où l'on va parler du regard des personnes âgées sur la jeunesse.
C'est le rappeur Orelsan qu'on écoute maintenant avec Des fêtes de famille.
Hey, le rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap?
Non.
Allez, une chanson.
Rose ton flow.
Ok. Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétro, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raccord. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins. Venez, on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est, est la seule chose qu'on a en commun. Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques. À peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs, papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros. T'étais même pas un bon mytho. Mon héros, c'était toi, Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre colle un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Orelsan sur Syllabe à l'instant. Un morceau drôle à prendre au troisième degré, bien sûr.
Et maintenant, nous allons vous parler du regard des personnes âgées sur la jeunesse d'aujourd'hui.
Ce sujet nous a tous mis d'accord. Nous avons trouvé très intéressant de créer un échange intergénérationnel. C'est dans la résidence de la Trémoille à Vitré que Jean-Marie et Suzanne, 96 ans, ont répondu à nos questions.
Mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants, il y en a un qui a 42 ans, il me dit, mamie, quand on va chez toi, mais on peut discuter et tout. Il dit, qu'est-ce que j'ai... Et puis, ils aiment venir me voir, envoyer mes petits-enfants. Moi, j'ai mon petit-fils de 42 ans, il y a quelques jours, il me dit, oh mamie, comme tu vieillis bien, comme tu es bien, on discute et tout, on rit. Ah, je voudrais vieillir comme toi.
Ah oh ben, il n'en voulait pas. J'ai pas un enfant à la ferme, sauf la jeune de mes filles, parce qu'elle a trouvé un agriculteur aussi, mais c'est pas le même que nous autres. Hein. Non, lui, il faisait beaucoup de poulets de Janzé. Elle est de Janzé. Ouais. Et puis lui, les pommiers, il a 15 hectares de pommiers. Alors, c'est pas la même vie, quoi, enfin.
Est-ce que vous côtoyez des jeunes régulièrement?
Pas tellement, non. Ben, souvent, je ne vois pas tellement de jeunes, ou ben c'est de mes petits-enfants, oui.
Un moment, oui, mais pas maintenant. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, je ne sais pas, moi, oui. Mais j'ai beaucoup de jeunes dans ma famille, moi. Mes arrière-petits-enfants.
Et qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse d'aujourd'hui?
Ben... Ce n'est plus pareil comme dans mon temps, bien entendu. Ça change.
Eh bien, pour chez moi, la jeunesse, pour chez moi, dans ma famille, la jeunesse est bien. Ils font beaucoup de sport. Ils sont vraiment, on ne se plaint pas. Ça arrive à 14 ans, mais dès tout petit, ils font déjà de la natation et tout. Ils font beaucoup de sport. Et. Ils viennent beaucoup me voir, ils sont intéressés et très intéressants. Mais alors, par contre, c'est pas tous comme ça. Hein. Je sais qu'il y a des jeunes difficiles. Et je crois qu'ils se font un plaisir d'être difficiles.
Donc pour vous, quels sont les points forts et les points faibles de la jeunesse de maintenant comparé à avant, vous, votre enfance?
Ah ben, ce n'est pas pareil du tout, non. Les jeunes, déjà, ils ont du mal à trouver du travail. Que nous, ça n'était pas pareil. Hein. Hein? On n'avait jamais de vacances, on n'avait que les vacances l'été, mais c'était pour aider aux parents à travailler à la ferme. Ouais. Maintenant, ce n'est plus pareil, quoi. Hein? beaucoup dans mon jeune temps. C'était des agriculteurs surtout, beaucoup, beaucoup. Même des gens dans les bourgades, ils venaient à l'été, pendant les vacances, ils venaient travailler dans les fermes, les enfants.
Mais c'est sûr que maintenant, c'est difficile. Même pour les jeunes, pour chercher du travail, tout ça. Maintenant, il faut beaucoup de choses. Alors, à l'époque, c'était différent. Les étudiants me prenaient pour devenir médecin ou quelque chose. Et pour les autres, on nous apprenait à prendre le travail. Il y avait quelque chose, je me rappelle, que pour commencer, on commençait dans un endroit où il fallait apprendre le commerce ou quelque chose, mais on nous apprenait.
Et vous trouvez que... Qu'est-ce qu'il y a de mieux, selon vous, maintenant pour les jeunes ?
Pour les jeunes, les études, bien sûr, et le sport. Ça les occupe, ça les prend, et c'est très bien. Il y a beaucoup de sport, alors il y a moyen de leur trouver quelque chose, quand même.
Non, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est plus difficile, à mon avis, pour vous autres. Non, à mon avis, vous n'êtes pas si bien parti comme on était, quand même. Parce que vous autres, il faut trouver le travail. Puis tu travailles assez dur, sans doute. C'est la tête pour vous qui travaille beaucoup. Hein? Maintenant, je serai à votre époque. Je ne sais pas ce que je ferai, parce que je sais bien que j'étais à l'école jusqu'à 12 ans. Mais c'est tout, au certificat. J'ai eu mon certificat. Et puis là, c'était au boulot. C'était prêt, parce qu'on arrêtait l'école à 12 ans. Ouais. Comme je suis du mois de juin, au mois de juillet, on arrêtait tout.
De les laisser trop vagabonder le soir et tout ça, c'est très mauvais. Ah oui, ils font n'importe quoi le soir, ça ne va pas. Il n'y avait pas ça autrefois, les jeunes ne partaient pas comme ça. Hein. Maintenant, ce n'est pas bien ça. Alors, il y a des gens qui les laissent partir comme ça, et je ne trouve pas ça bien, moi, personnellement.
Bonjour.
Bonjour. Et vous auriez aimé vivre jeune maintenant ou à votre époque?
Peut-être que ce serait aussi bien parce que nous, on n'avait jamais d'arrêt, quoi. On n'avait jamais de samedi, dimanche, madame faisait la messe et puis avait. C'était tout le temps, ça. Hein, que maintenant, ça n'existe plus. Ah, c'était plus dur, oui. Ah oui, des tout jeunes. Je ne sais pas si vous êtes plus âgé, mais à 7-8 ans, il fallait déjà planter des choux. Il fallait mettre les choux. Ah ouais, des tout jeunes comme ça. Le jeudi, ouais, parce que le jeudi, on n'avait pas d'école. Mais il fallait aider aux parents, toujours. Ah oui, on ne s'amuse pas comme maintenant. Ils s'amusent, les jeunes, et nous. Nous, des fois, on aurait voulu s'amuser un petit peu, mais ils te rappelaient. Ils nous rappelaient, hein. Oui. On avait toujours quelque chose à faire, alors.
À mon époque, c'était difficile aussi pour certains, hein, parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté, hein, c'était pas toujours facile non plus. Hein. Et autrement, dans l'ensemble, par exemple, dans les écoles et tout, je trouvais que c'était bien. Les élèves, il y avait la... Oh, c'était bien. Enfin, les élèves étaient corrects. Jamais ça n'aurait répondu à un professeur. C'était bien. Ça, les écoles, je trouvais ça très bien. Ah oui. Alors maintenant, je crois que c'est plus difficile. Parce que si ça ne va pas, c'est l'élève qui a raison. Autant dire. Et à ce moment-là, ce n'était pas du tout comme ça. Et c'était beaucoup mieux que maintenant. Parce qu'il y a des élèves qui grandissent bien, mais vous en avez qui, c'est le contraire. Et qui croient que tout est permis. Alors, non, tout n'est pas permis pour des jeunes. Il faut qu'ils sachent grandir. Il faut qu'ils sachent prendre la vie comme elle doit être prise.
Et est-ce que vous pourriez
nous raconter une anecdote de votre jeunesse?
Une anecdote de votre jeunesse qui vous a marqué?
Oui, quand Madame, j'ai eu un vélo, j'avais 13 ans. Mes parents m'ont acheté un vélo. Avant, je n'avais pas. Madame, après, à partir de 16 ou 17 ans, des copains, on allait au bal. Au bal, comme ça, oui. Un peu le dimanche, l'après-midi. Ah oui, après, parce qu'on a le puavé, pareil. Avec les parents, c'était obligatoire, on a dit oui. On a la messe à puavé, puis tout. Mais là, avec les copains, on partait. Oui, on venait aux fêtes, quand il y avait des fêtes comme ça. En vélo, toujours en vélo. Hein. Mais mes parents avaient une voiture, une C4 à l'époque. Eh bien, j'allais... Et j'ai pris mon père, il avait son permis, et après il voulait que je le prenne, je le pensais. Je l'ai eu le jour de mes 18 ans, oui, le 14 juin 1940, à Rennes. C'était pendant la guerre, ça, tiens. Oui. Ah ben pendant la guerre, on était embêté, hein, parce que je suis de la classe 42. Alors, ils nous demandaient de travailler en Allemagne. Du service obligatoire. Alors, beaucoup se sont de baie, on s'est camouflé. Il n'y a eu que deux à partir parce qu'ils n'avaient plus de parents. Ah, ben tant pis, on part. Oui. Et puis, non. Et les gendarmes n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas pour qu'on partait. Non. Il n'y a pas eu beaucoup. Il y en a qui ont parti, mais quand le train il ralentissait, ils sautaient. Hein, ça se passait comme ça. Il partait, il allait se cacher. On n'a pas eu d'ennui, mais on risque. C'est ça, on risquait d'avoir des embêtements pour ça.
J'avais un père qui déménageait beaucoup, on changeait de ville et tout. Je changeais beaucoup d'école. Ce qui n'était pas toujours drôle, mais je changeais beaucoup d'école. Et tout a réussi. Comme quoi? Parce que souvent, quand on change d'école, c'est pas... Alors, je me rappelle que la dernière fois, j'avais 11 ans. Alors, on change d'école encore, puisqu'on venait de déménager. Et ma mère me dit, je t'emmène à l'école. Ah, j'ai dit, encore une autre école. J'ai dit, maintenant, j'ai 11 ans. Je dis, j'ai bien envie d'arrêter, maman, ça va comme ça. Alors, elle me dit non. Elle m'a emmenée, puis on obéissait. Alors, à l'école, ma mère a expliqué à la directrice que je changeais beaucoup d'école. Je ne sais pas à quel niveau elle est maintenant. Et alors là, la directrice dit, ben, écoutez, je vais la mettre au niveau de son âge et on va voir si elle peut suivre ou pas. Et j'ai suivi. Et puis ma foi, ça a été très bien. Vous voyez, à l'époque, c'était comme ça, mais là, c'était bien.
Comme quoi, nous les jeunes, on se préoccupe des personnes âgées et les personnes âgées s'intéressent à l'avenir des jeunes. Elles s'inquiètent même de leur avenir professionnel.
Elles ont un regard plutôt positif sur la jeunesse. Cette rencontre a été émouvante et enrichissante.
Vous aussi, n'hésitez plus à aller rendre visite à nos aînés. Ils ont plein d'histoires à raconter et de valeurs à transmettre.
On remercie la résidence de la Trémoille de nous avoir accueillis et bien sûr Suzanne et Jean-Marie, 96 ans, qui nous ont accordé du temps. On espère qu'ils entendront le résultat de cette interview. Merci beaucoup.
Avant de visiter le château de Vitré, dans quelques minutes, on fait une pause musicale dans l'émission d'Hiver Vitré.
Elle a 78 ans, elle a toujours la pêche, toujours le sourire, c'est Calypso Rose.
Le morceau s'appelle Abatina. C'était Calypso Rose sur Scylla.
Vous êtes dans l'émission d'Hiver Vitré et nous allons maintenant partir à la découverte du château de Vitré. N'est-ce pas, Ethan ?
Eh oui, tout le monde connaît le château de Vitré. Et pourtant, moi qui y habite depuis 11 ans, je ne l'ai jamais visité. La radio a été l'occasion rêvée.
C'est la majestuosité. C'est parce que c'est très grand et c'est très fortifié et la puissance.
Moi, c'était la vue du train. Du TGV, à une époque, le TGV passait à Vitré, sans s'arrêter d'ailleurs. Et du TGV, je voyais les tours du château et autres. Et personnellement, ça m'a donné envie de venir ici.
Mais tout ce qui est tours, remparts, la qualité de l'ouvrage, ses vieilles pierres, son pont-levis, ses douves, ses créneaux, tout ce qui peut représenter les châteaux de cette époque. Ouais.
I think it's very beautiful, très très beau. It's quite large, bigger than it looks from the outside, and it's old, and I like history, so that's why I'm here.
Eh bien, c'est un bon témoignage du passé, un endroit qui fait référence dans l'histoire de France, mais aussi dans l'architecture, et je pense que ce sont les endroits qui méritent d'être visités en Bretagne. Je connais déjà l'endroit, je suis venu plusieurs fois. Mais ça fait du bien d'y revenir et de s'immerger un peu dans les lieux et de voir un petit peu l'intérêt que représente cette architecture après tous ces siècles passés et de voir dans l'état où il est actuellement et dans ce bel état, puisqu'il a réussi à traverser les siècles et à nous restituer des images intéressantes de cette époque glorieuse, de ces châteaux hors du temps pour nous aujourd'hui.
I think my favorite part is la porte when you come in with the tower. That's my favorite part.
Là, on se trouve dans la cour intérieure du château. Vous avez remarqué, il y a une place devant le château et pour pouvoir aller de la place à l'intérieur du château, il y a le pont-levis parce que on a un grand fossé qui est juste devant le château. Alors déjà, ça le rend un peu isolé du reste de la ville. Et si on regarde au sud et au nord, on se rend compte que l'on est bien très en hauteur et qu'il y a des falaises abruptes de chaque côté. Ça, c'est assez impressionnant. Oui, le château, il est très en hauteur. On est à 30 mètres de haut au-dessus de la rivière de la Vilaine qui coule juste au nord. Pour ce qui est des bâtiments, ils ont une forme bien particulière, c'est un triangle. Trois côtés, trois sommets, et ce triangle, eh bien, il est là parce que tout simplement, c'est la forme du sol sur lequel on a construit le château. On l'a construit sur ce qu'on appelle un promontoire, qui est en pointe, c'est un éperon. Et le fossé vient barrer cet éperon. Ça rend la place plus facile à protéger, à défendre, puisqu'elle est bien isolée du reste des environs. Et on va avoir trois grosses tours circulaires à chaque sommet de ce triangle. Alors on a la tour de Montafilan, qui est celle vraiment de la pointe de l'éperon, et puis il y a la tour de la Madeleine, et la plus grosse tour, c'est la dernière, c'est la tour Saint-Laurent. Entre ces trois grosses tours rondes, eh bien, on a construit des murs, les courtines, pour les relier les unes aux autres. Et il y a un élément très important qui vient s'ajouter à ça, c'est le châtelet. Le châtelet, c'est la construction qui est au-dessus de l'entrée. Cette construction, elle est faite de deux grosses tours circulaires qui encadrent l'entrée du château. Et on est bien avec un bâtiment qui est construit entre les deux grosses tours. Et bien, ce bâtiment, il a un rôle bien important puisque c'est là où vit le seigneur avec sa famille. C'est le lieu de vie du baron de Vitré. Pour ce qui est de toutes les autres tours qu'il y a en plus des grosses tours circulaires, eh bien, ce sont des tours qui peuvent avoir été modifiées, qui étaient des tours d'abord non pas d'habitation mais de défense, des tours semi-circulaires, comme la tour Auvel que l'on a ici, qui est une tour avec des meurtrières pour pouvoir défendre justement la courtine entre le Châtelet et la tour Saint-Laurent. Et sur la façade ouest, il y a une très très longue circulation possible sur le haut du mur. C'est ce qu'on appelle une courtine extérieure qui va bien partir de la tour Saint-Laurent, qui va aller à la tour de l'Argenterie, qui est en fer à cheval. Ça, c'est une forme un peu rigolote. Elle est arrondie sur l'extérieur et plate vers le côté court intérieur du château. Et on finit avec une autre tour, c'est la tour de la chapelle, la tour de l'oratoire, avec une sorte de construction blanche qui peut paraître un peu étonnante parce que c'est une construction qui date du XVIe siècle, tout simplement. Ce n'est pas vraiment moyenâgeux, c'est renaissant. C'est une nouvelle manière de s'exprimer dans l'architecture du château. On retrouve bien sûr l'hôtel de ville qui va prendre place entre deux tours. La tour de Montafilan, la vieille tour qui existe déjà au XIIIe siècle, et puis une autre tour qu'on appelle la tour sans nom et qui, vous voyez, a été restaurée très récemment. Déjà là, on a de quoi voir un peu comment évolue ce château et comment ce château très médiéval, très fortifié, va devenir aussi très confortable à vivre grâce au XVe siècle avec, vous voyez, des grandes fenêtres sur les parties notamment intérieures de ce châtelet.
Je suis arrivée maintenant et je trouve que c'est un trop beau château et je dois lire l'histoire de deux châteaux parce que c'est la première fois que je viens ici et que je le vois. Et on va le découvrir maintenant.
Alors ce château, il est construit surtout au XIIIe siècle. À l'époque, c'est donc le Moyen-Âge, et c'est le château de la baronnie de Vitré. Il est là pour défendre la frontière du duché de Bretagne des autres voisins qui sont les principautés du Maine, de l'Anjou et puis de la Normandie. Il fait partie de toutes ces forteresses qui vont être construites sur cette zone frontalière. On a Fougères, par exemple, qui est à côté, qui en fait partie. Et ce château, eh bien, il va petit à petit être modifié. Alors au XVe siècle, au début, on est vers les années 1400, eh bien, on va essayer de le rendre un peu plus confortable, avec notamment des espaces résidentiels, comme dans le Châtelet, à côté duquel nous nous trouvons à l'instant. Et puis, on va avoir au fur et à mesure aussi des cours assez, on va dire... vive et pleine de vitalité comme au moment de la Renaissance avec Guy XVI de Laval qui est le baron de Vitré de l'époque et qui va inviter tout un tas de savants, de scientifiques, de littéraires, de philosophes à la cour de Vitré. Donc il a vu passer beaucoup de monde, il a vu passer des gens aussi bien plus tardivement comme Madame de Sévigné qui est venue avec tous les nobles de Bretagne faire les états de Bretagne en 1671. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un lieu qui est un musée depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, c'est un musée et c'est aussi l'hôtel de ville. Alors si vous êtes vitréen, et que vous vous mariez à la mairie, ce sera dans le château, dans la salle des mariages, que vous vous marierez. Pourquoi la mairie est à l'intérieur du château? Justement, parce que ce château, il n'a pas toujours été la propriété de la commune de Vitré. Je vous ai dit avant, c'était des barons qui en étaient propriétaires. Et il y a eu la Révolution française. Au moment de la Révolution française, c'est les révolutionnaires qui ont repris le château. Et puis après, il y a eu la création du département. Alors les départements, c'est Napoléon Ier, hein, c'est sous l'Empire que ça va être établi. Et on a donc un département qui va prendre possession du lieu, mais il ne va rien vraiment en faire à part une prison. Une prison pour femmes, une prison pour hommes. Et puis plus tard, ce sera pour les membres de la caserne du 70e régiment d'infanterie. La caserne sera là en attendant que la caserne définitive soit construite à côté du jardin du parc. Là, finalement, le département ne va plus vraiment rien faire du château. Il y a même des espaces du château qui vont être très abîmés. Le haut de la tour Saint-Laurent s'effondre à ce moment-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on va décider? On va décider de donner le château à Vitré, à la ville. Vitré va l'accepter et pour pouvoir, restaurer ce château et pour en faire un lieu important de Vitré, il décide d'y installer l'hôtel de ville. C'est pour ça. C'est parce que la ville est devenue propriétaire de ce château qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose d'important en mettant l'hôtel de ville dedans. Son originalité. Moi, je pense que tous les châteaux ont quelque chose de particulier. Que ça soit un château du 19e siècle ou un château d'une mode féodale du 11e siècle, ils ont tous quelque chose de particulier. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il est dans la ville. C'est peut-être une de ses particularités les plus importantes, c'est que quand on se promène dans la ville de Vitré, on le voit forcément, on a possibilité de rentrer dans la cour comme on veut, de faire le tour du château aussi par l'extérieur. Il est très présent sur Vitré, il fait partie finalement de l'identité de la ville. C'est peut-être ça son point fort, enfin un de ses points forts.
Ok, thank you very much.
Thank you.
Merci, au revoir.
Merci à vous.
Merci.
Grazie.
Merci à eux de nous avoir raconté leur vision du château de Vitré. Vous aussi, venez le découvrir.
Et c'est malheureusement déjà la fin de Divers Vitré. C'était un plaisir de faire cette émission. Nous avons choisi ensemble les sujets, reportages, interviews, musique.
Divers Vitré, une émission réalisée par
Jeanne,
Ada,
Yuna,
Sacha,
Ethan
et Louis du local jeune de Vitré.
Merci à Jérémy, notre animateur jeunesse, et à Samuel et Romain, de Radio Syllab.
Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur www.c-lab.fr.
Bonne journée et à bientôt dans
Divers Vitré.